Voilà, alors j'appelle tout de suite Antoine Livière qui va nous donner quelques repères, d'éléments de biographique, quelques dates dans la biographie de Monseigneur Alain.
Bien, bonjour. On m'a demandé aujourd'hui de vous présenter quelques repères concernant la vie de Monseigneur Loge, quelques grandes dates. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire lors de la conférence diocésaine à l'Institut Saint-Serge en octobre de l'année dernière. Vous pouvez avoir tous les... Mon texte qui a été édité partiellement dans un supplément au SOP en novembre 2006, c'est une version intégrale, complète, académique, avec les notes universitaires, doit paraître dans un prochain numéro de Contact. Alors, donc, Monseigneur Loge, en quelques dates, il était né en 1868 et il mourra en 1946. C'est probablement un des plus grands évêques de l'orthodoxie russe, voire même de l'orthodoxie mondiale dans la première moitié du XXe siècle. Un évêque dont on connaît paradoxalement assez bien et encore mal la vie, le parcours biographique. On le connaît assez bien parce qu'il a laissé des mémoires. Des mémoires qui sont un témoignage très vivant et d'une grande profondeur à la fois personnelle, spirituelle et aussi un texte historique de référence sur la Russie avant la Révolution et sur les premières années de l'émigration russe. Mais donc, bien sûr, comme tous les exercices de ce genre, c'est très subjectif. Il faudrait compléter ces mémoires par une véritable étude historique, académique, qui se fonderait sur les archives. Et il faut reconnaître, tout à fait, de manière assez étonnante, Monseigneur Loge n'a pas encore trouvé son biographe. Alors, ce que j'ai un peu étudié de la vie de Monseigneur Loge, je pense qu'on peut dégager deux grandes parties dans sa vie. Tout naturellement, il y a la première partie, la période en Russie, et la deuxième partie dans l'exil. En Russie, donc, c'est de sa naissance jusqu'à 1919, dans l'exil de 1920 jusqu'à sa mort en 1946. Deux parties inégales, mais deux parties extrêmement riches. Celle, bien sûr, qui nous est le mieux connue et d'une certaine façon, la plus chère au cœur, c'est la deuxième partie. Alors, là, pour ce qui est de la première partie, je me limiterai à quelques mentions très, très rapides. D'abord, les origines de Monseigneur Loge. Bon, il était issu d'une famille traditionnelle du clergé russe. Il était fils d'un prêtre de village, de campagne, au fin fond de la Russie, dans la région d'Aryol, au sud de Moscou. Il a connu la vie des enfants traditionnels, des enfants du clergé, enfin, un parcours très, très simple, très linéaire. C'était le collège ecclésiastique, le séminaire, et comme il avait de bons résultats, il a continué ses études à l'Académie de théologie de Moscou. Donc, le parcours habituel des enfants du clergé, mais avec une vraie vocation, avec une vocation profonde, même s'il il le raconte bien dans ses mémoires, il a eu souvent des doutes, des interrogations quant au chemin choisir dans la vie. Une vocation profonde qui s'inscrivait dans une foi profonde, une foi qu'il avait puisé auprès de son père à l'église dans les célébrations liturgiques. Il n'en parle peut-être pas beaucoup dans ses mémoires, par contre dans un autre texte qui existe encore sous forme de manuscrit dans les archives de l'administration diocésaine, rue Daru, une première esquisse de mémoire qu'il avait rédigée quand il était emprisonné pendant la guerre civile. Il parle beaucoup de, de l'importance de la liturgie quand il était enfant. Depuis le clérus, il regardait son père célébrer. C'est l'influence aussi très importante du peuple russe, la foi populaire, qui l'a beaucoup marqué, notamment celle qui conduisait le peuple russe dans les pèlerinages, dans les monastères, et lui-même, dès son enfance, a pris l'habitude, grâce à sa mère qui le conduisait dans les monastères, en particulier au monastère d'Optino, auprès du Starets Ambroise, aujourd'hui canonisé, et qui a joué un rôle important dans la maturation spirituelle de Monseigneur Eloge, et même dans le choix de sa vocation, comme je disais tout à l'heure. Il avait des doutes, il ne savait pas vraiment s'il devait entrer à la suite de ses ancêtres, dans la voie du clergé. C'est le père Ambroise qui lui a indiqué ce chemin. À partir de ce moment-là, Monseigneur Eloge a suivi la carrière ecclésiastique normale, entre guillemets, classique pour tous ceux qui sortaient de l'Académie de théologie, une carrière brillante et rapide. Il a été fait moine et ordonné prêtre en 1895. En 1897, il est déjà archimandrite. En 1903, il est sacré évêque auxiliaire. En 1905, il devient évêque diocésain. Alors cette carrière ecclésiastique, il la commence dans la région de Chelm, en Pologne aujourd'hui. C'était à la limite de l'Empire russe, une région disputée entre Ukrainiens, Polonais, l'Empire austro-hongrois, l'Empire russe. Et là, Monseigneur Eloge va avoir une double action, à la fois de pasteur, importante, mais aussi, plus étonnant, une action d'homme politique, puisqu'il va être élu député à la deuxième et à la troisième Douma, donc il va siéger au Parlement russe entre 1907 et 1913. Et il a une action d'homme politique extrêmement importante, notamment pour défendre sa région, enfin la région de son diocèse de Chelm, et défendre en particulier les paysans russes et ukrainiens orthodoxes face aux propriétaires catholiques polonais de cette région. C'est un homme politique qui appartient à la droite modérée. Il soutient les réformes du Premier ministre Stolypin. C'est un homme en vue à Saint-Pétersbourg, dans les milieux officiels, tant ecclésiastiques que gouvernementaux et intellectuels. Il est fait archevêque en 1911, et en 1914, il est muté au siège de Voligny, une région de l'Ukraine occidentale, qui était un des sièges diocésains les plus importants à l'époque de l'Église russe, avec de très nombreuses paroisses. À la Révolution, Monseigneur Eloge part à Moscou pour siéger au concile pan-russe de 1917-1918. Il est l'un des proches collaborateurs du nouveau patriarche, patriarche Tikhon, qui est élu en novembre 1917. Monseigneur Eloge est un des grands artisans du Concile. Il préside notamment la commission liturgique qui a prévu un certain nombre d'arrangements, de réformes possibles dans les célébrations liturgiques pour les rendre plus compatibles avec une vie moderne. Monseigneur Eloge raconte comment il a soumis ce projet au patriarche Tikhon, qui a dit bon, il était un peu trop tôt, en période d'instabilité révolutionnaire, pour engager l'Église dans des réformes qui étaient déjà en projet depuis une dizaine d'années, et que Monseigneur Eloge soutenait de son approbation. Toujours au Concile de Moscou, Monseigneur Eloge, ça montre bien l'importance qu'il avait à l'époque dans l'épiscopat russe, est élu membre du Saint-Synode. La révolution a déjà éclaté. Monseigneur Eloge, je l'ai dit tout à l'heure, avait en charge un diocèse très important en Ukraine. L'Ukraine est une région particulièrement instable après la chute du régime impérial. Le pouvoir est contesté, partagé, disputé entre différentes tendances de nationalistes, modérés, extrémistes, etc. Et c'est une de ces tendances la plus extrême qui fait arrêter Mgr Eloge en même temps que l'archevêque Antoine Chrapovitz, qui lui était au siège de Kharkov. Et les deux évêques vont passer 9 mois en détention en Ukraine occidentale, dans des monastères catholiques, uniates, en Ukraine et en Pologne, avant d'être libérés seulement en 1919. À sa libération, alors cette période de détention a joué un rôle très important dans l'évolution intérieure de Mgr Eloge, dans sa maturation spirituelle. Il le raconte un peu dans ses mémoires. Il le raconte plus en détail dans ces fameux écrits qui sont encore sous forme manuscrite dans les archives diocésaines. C'est à ce moment-là notamment que Mgr Eloge a fait un peu un retour sur sa vie antérieure et s'est posé des questions en particulier sur son action politique, sur la justification, le bien fondé d'un engagement politique et un peu le côté, disons, vain d'un tel engagement. Et on va voir que dans l'émigration, ça a contribué à l'évolution de sa vision de la place de l'évêque et aussi des relations si difficiles dans l'histoire de l'Église orthodoxe entre l'Église et l'État. Après sa libération de détention, Mgr Eloge cherche à rentrer en Russie, mais son diocèse est déjà tombé aux mains, enfin la zone de son diocèse est déjà aux mains des Rouges, et finalement, il prend la voie de l'exil au début de l'année 1920, un exil qui passe par la Serbie, et c'est alors qu'il est en Serbie qu'il est nommé par l'administration provisoire des évêques de l'Église russe située au-delà de la ligne de front, dans la ligne de front aux mains des Blancs, des armées blanches, Mgr Eloge se voit confier l'administration, la gestion des quelques paroisses russes en Europe occidentale. Le décret ne lui parvient pas, il faudra plusieurs mois avant que Mgr Eloge apprenne cette nomination. Qu'elle soit aussi transmise dans les paroisses russes d'Europe occidentale. Certains responsables de ces paroisses se poseront des questions sur la validité, sur la valeur de ce décret. C'est le cas notamment de l'archiprêtre Jacques Smirnov, qui était recteur de l'église Saint-Alexandre-Nevski rue d'Aru à Paris. Et ces interrogations vont être adressées à Moscou. Elles parviendront non sans mal jusqu'au patriarche Tikhon, qui va décider de nommer à son tour Mgr Eloge à la tête des églises russes d'Europe occidentale. Donc ça, c'est un moment très important, puisque c'est Mgr Eloge se voit attribué par une décision du patriarche, confirmé par l'évêque qui jusqu'à présent s'occupait de ces églises russes en Europe occidentale, le métropolite de Petrograd, rapidement plus tard martyr Saint-Benjamin Kazansky, qui transmet officiellement à Mgr Eloge la charge pastorale sur ses paroisses. Commence là véritablement la deuxième partie de la vie de Mgr Eloge. D'abord à Berlin, pendant 2 années, il installe le centre de son administration diocésaine à Berlin, et puis très rapidement, à la fin de l'année 22, début de l'année 23, il vient s'installer à Paris auprès de l'église de la rue d'Aru. Alors, cette deuxième période de la vie de Mgr Eloge, elle est marquée par un certain nombre d'événements de grande portée, puisque il continue jusqu'à aujourd'hui à avoir un prolongement. Je crois que la première chose qu'il faut mentionner, bien sûr, c'est la construction de paroisses, d'églises, de chapelles, un peu partout sur le territoire de l'Europe occidentale. Celles qui existaient avant la Révolution n'étaient pas très nombreuses, avec le flot d'émigrés qui arrivent en Allemagne, en France, dans d'autres pays également, en Tchécoslovaquie, au début des années 20. Il faut ouvrir de nouveaux lieux de culte. Tout ça se fait de manière très informelle. Je pense que dans l'auditoire, la plupart d'entre vous savent très bien comment tout ça s'est passé, parce que ce sont vos parents, voire même certains d'entre vous plus jeunes, qui ont contribué à cela. Et tout ça s'est fait sous le couvert, avec la bénédiction, avec le soutien, avec l'aide et avec surtout l'amour paternel, pastoral de Mgr Eloge, qui a mis en place véritablement ce réseau de quelques 80 paroisses à travers toute l'Europe occidentale, depuis la Scandinavie jusqu'au Maroc. L'autre grande contribution de Mgr Eloge, qui est vraiment sa construction, là, quasiment personnelle, c'est l'Institut de théologie Saint-Serge. Pour ses paroisses, pour donner un clergé, pour perpétuer aussi les connaissances théologiques, l'école théologique russe qui avait été si brillante à la fin du 19e et au début du 20e siècle, Mgr Eloge a, avec une grande opiniâtreté, combattu sans cesse pour pouvoir créer cette école de théologie, pour rassembler les moyens nécessaires, pour rassembler les professeurs. Et c'est vraiment, l'Institut Saint-Serge était pour lui comme son enfant, hein, qu'il couvait et auquel il apportait toute son attention, il y allait chaque semaine, etc. On peut dire un peu dans le prolongement, il y a aussi toute une série d'engagements aussi de Mgr Eloge, de présence de Mgr Eloge, en particulier dans le mouvement de la serre. Alors, je ne vais rien dire là maintenant, puisque c'est Tatiana Viktorov qui va nous en parler dans le détail. Mgr Eloge n'était pas membre en tant que tel de la serre, mais il était toujours présent, soutenant les différentes initiatives, participant au congrès. Et vous le verrez dans le film tout à l'heure, moi il y a quelque chose qui me frappe dans ces images, c'est la proximité, la chaleur qui se dégage dans les contacts entre Mgr Eloge et les membres clercs, théologiens ou simples adhérents du mouvement, les jeunes qui sont là, qui l'entourent, une chaleur et ce sourire, cette joie d'être ensemble, un peu comme le dit le psaume, qu'il est bon d'être ensemble en frères. L'autre aspect, malheureusement, on pensait qu'on a essayé d'établir le programme de ces différentes conférences l'année dernière, et puis on n'a pas trouvé la personne pour développer cet aspect, c'est l'engagement de Mgr Eloge dans le mouvement œcuménique. C'est vraiment un des pionniers de l'œcuménisme, et là il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc voilà quelques grands thèmes de la vie de Mgr Eloge qui me paraissent extrêmement être des pages tout à fait exaltantes. Alors à côté de ces pages exaltantes, il y a bien sûr des pages un peu plus sombres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Mgr Eloge, après la Révolution, avait compris tout le danger du politique dans l'Église, le danger de l'instrumentalisation de l'Église, et il a choisi une ligne apolitique qui l'a conduit à rencontrer des obstacles à droite, des obstacles à gauche. Des obstacles à droite, c'est en 1926 la rupture avec le synode des évêques hors frontières, réunis à Karlovci en Serbie. Et puis les obstacles à gauche, c'est en 1930, les problèmes qu'il a rencontré avec le métropolite Serge Stragorodski de Nijni Novgorod, qui à l'époque était le remplaçant provisoire du remplaçant du patriarche, depuis la mort du patriarche Tikhon en 1925. Monseigneur Eloge lui avait fait la promesse de ne pas se livrer à de la politique, et il a tenu sa promesse, mais comme on le sait, en 1930, quand une des grandes campagnes antireligieuses a été lancée par Staline en Union soviétique, Monseigneur Eloge a considéré qu'il n'était pas possible de se taire, qu'il n'était pas possible de garder le silence sur ce qui se passait, contrairement à ce que faisait le métropolite Serge de Nijni Novgorod, pour des raisons que l'on comprend très bien et que Monseigneur Eloge, il le dit dans ses interviews, ne voulait absolument pas lui lancer la pierre à ce sujet, mais lui, ici en Occident, il était libre de parler et surtout de prier pour ceux qui souffraient, persécutés en Russie, et c'est ce qui l'a amené à participer à des cérémonies de prière pour les chrétiens opprimés en Russie, à Paris et surtout à Londres, et c'est cette participation de Monseigneur Eloge qui a envenimé ses rapports avec le patriarche Serge jusqu'à une interdiction de la part du patriarche Serge et une rupture de Monseigneur Eloge qui, début de l'année 1931, a trouvé la protection sous l'homophore du patriarche œcuménique à Constantinople. Après, il y a eu deux tentatives de réconciliation. Une première tentative avec le synode russe hors frontières en 1935. Monseigneur Eloge est allé à Karlovtsi, il a rencontré le métropolite Antoine Klapovits, qui avait été son maître, son professeur à l'Académie de théologie de Moscou dans sa jeunesse, lors de ses études. Ils se sont mutuellement pardonnés, ils ont lu des prières d'absolution, mais bon, il n'y a pas eu d'autres résultats plus concrets ensuite, d'autant plus que le synode hors frontières, dans les années qui ont suivi, s'est engagé dans un jeu politique, disons, un peu dangereux avec l'Allemagne nazie, et notamment ce qui l'a conduit à occuper une partie des paroisses qui, en Allemagne, relevait précédemment de la juridiction de Monseigneur Eloge. Et puis l'autre tentative, c'est en 1945, cette fois-ci avec Moscou, dans un contexte bien sûr tout à fait particulier, celui de la victoire sur l'Allemagne nazie et de l'euphorie que ça peut avoir déclenché dans certains milieux de l'émigration. Monseigneur Eloge s'est adressé au patriarche de Moscou. Il a ensuite reconnu que sa décision était un peu précipitée, d'une part parce qu'elle rencontrait une forte opposition de la part de la majorité de son clergé et de ses fidèles. Et puis lui-même a regretté un certain nombre d'événements qui sont venus l'amener à la constatation qu'il avait était trop vite et qu'on l'avait peut-être trompé dans ce processus qui s'est trouvé interrompu par la mort de Monseigneur Eloge, survenue au début du mois d'août 1946. Voilà, en quelques mots, une vie qui est extrêmement riche, hein, on ne peut pas bien sûr résumer en 5-10 minutes. Ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas ou qui la connaissent pas assez, je les renvoie encore à ce livre autobiographique de Monseigneur Eloge, qui est aussi d'une très grande qualité littéraire. Il existe maintenant en traduction française pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès à la version originale russe. Merci.